Cette bibliothèque de l'éducation se poursuit en compagnie de Philippe Mérieux, directeur de l'IUFM de l'Académie de Lyon jusqu'à ce jour, puisque vous quittez votre poste aujourd'hui. Avec nous sur le plateau, deux enseignants. Sylvie Copé, vous êtes enseignante, chercheure et formatrice en mathématiques. Jean-Luc Ubaldi, vous êtes formateur en éducation physique et sportive. Vous avez tous les deux des questions à poser à Philippe Mérieux. Jean-Luc Ubaldi.
Oui, donc j'ai lu attentivement le livre. J'ai une ou deux remarques et puis après j'essaierai de poser une question. Dans le livre, on trouve une idée, ni savant ni psychologue, quand on doit être un enseignant, c'est peut-être compliqué à comprendre quand on n'est pas un prof. Mais bon, on trouve aussi dans le livre une certitude, c'est que l'ardeur pédagogique est indissociable de la maîtrise des savoirs. Donc ça m'a rassuré. Et puis on trouve aussi ce versant de la fierté de faire réussir les élèves. Enfin, moi en tout cas, en tant que prof, c'est ce qui m'a toujours animé. J'ai retrouvé ce triptyque sans ambiguïté. Alors aujourd'hui, je suis formateur. Je parlerai de ce côté-là. On met en place un dispositif de formation à l'UFM qui s'appelle le Cargo, et qui s'appuie sur une mise en situation en toute sécurité des étudiants, des stagiaires, dans les établissements scolaires, dans les ZEP même de l'académie. On utilise comme choix, un grand choix, qui est l'interdisciplinarité. Alors aujourd'hui, les IDD, les TPE sont peut-être pas en grande forme, et nous, on utilise cette modalité. Alors je me demande si on n'est pas devenu fou.
Oui, alors peut-être pour les auditeurs, rappeler ce que sont les IDD et les TPE. IDD, itinéraire de découvert, TPE, travaux personnels encadrés, qui ont leur correspondant dans l'enseignement professionnel, qu'on oublie trop souvent, qui s'appellent les PPCP, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel. L'enseignement professionnel est le grand oublié en France, et je trouve que c'est vraiment dommage. Moi-même, j'ai beaucoup milité pour la mise en place des TPE et des IDD. La consultation des lycéens de 98, à laquelle vous faisiez allusion, Muriel, montrait que les lycéens étaient demandeurs de quelque chose qui soit un outil pour travailler un peu autrement, pour s'investir un peu autrement. Moi, je ne crois pas que les IDD et les TPE soient condamnés. Alors, l'institution peut décider ce qu'elle veut à cet égard. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental dans l'éducation. Et ce n'est pas une lubie de 68ards, comme on le dit, parce que ça vient des compagnons du Tour de France. C'est l'idée du chef-d'œuvre. C'est donner la possibilité à un enfant, au cours de sa scolarité, de produire quelque chose qui soit un chef-d'œuvre, sur laquelle on soit très exigeant. On va être très exigeant. Les IDD, les TPE, ce n'est pas du n'importe quoi. On nous a dit, les gamins vont parler du rap, de Bob Marley ou que sais-je encore. Non, s'ils parlent de Bob Marley, ils vont essayer d'aller faire de l'histoire, très sérieusement, d'aller faire de l'anglais. Ils vont essayer d'aller faire un travail fort sur la musique, très exigeant. Et on va les amener à travers cela à produire quelque chose qui soit le contraire de la facilité, qui soit l'approfondissement maximal. Donc moi je crois à cette méthode-là, je crois que pour grandir à un moment, il faut que l'enfant fasse un chef-d'œuvre, quelque chose dont il puisse dire c'est moi qui l'ai fait, c'est pas parfait mais presque, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, mes profs m'ont aidé et ce qui est là, je m'y reconnais dedans, ça m'a aidé à grandir. Et je crois que c'est à travers les IDD et les TPE qu'il y a la véritable exigence pédagogique. Moi rien ne me choque plus dans un certain nombre de classes que cette espèce d'échange, je bac mon travail, le prof me met 6 et tout le monde est content. Non, je bac mon travail, le prof me met 6, tout le monde est content. C'est un marché, c'est ce que Paulo Freire appelle la pédagogie bancaire. C'est pas l'école. L'école, c'est je vais t'aider à faire en sorte que tu ailles jusqu'au bout d'un travail dont tu puisses être fier et qu'il soit presque parfait. Et nous, les enseignants, on est là pour ça. Et si tu y arrives, eh bien, ce sera pour toi une vraie victoire. Et sur cette victoire-là, tu pourras en greffer d'autres. Alors, tout ne deviendra pas IDD et TPE, mais si on réussit une fois sur ce genre de choses à se dépasser et à montrer qu'on peut y arriver, alors ça se répercutera dans toutes les autres activités. Et mon hypothèse, c'est qu'à ce moment-là, l'élève se réconciliera, s'il est un peu fâché, avec l'école, qu'il y trouvera du sens et qu'il s'y investira. Donc je crois que les TPE, les IDD ne sont pas condamnés. Si, effectivement, pour des raisons institutionnelles, elles disparaissent des horaires, il faut demander aux enseignants de garder cette inspiration dans leur pratique pédagogique. Ils le font déjà très largement à l'école primaire, ils peuvent continuer à le faire dans le secondaire. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'enseignant dans sa classe, il a souvent plus de liberté que lui-même ne le pense. Et que s'il veut mettre en place des choses comme ça, une pédagogie du chef-d'œuvre, eh bien, il pourra le faire. Il pourra permettre aux gamins d'aller jusqu'au bout de cette exigence et à la fois d'apprendre et de grandir. Parce que pour moi, les deux sont complètement liés. Dans l'exigence disciplinaire, on se dépasse et on grandit dans son intelligence des choses et du monde. Voilà, donc c'est pas ringard pour moi. Même si c'est très vieux et si c'est pas 68 ans non plus. Et on voudrait nous faire croire que la pédagogie c'est 68, mais la pédagogie du chef-d'œuvre, les compagnons du Tour de France, c'est le Moyen-Âge. C'est pas 68. Donc moi je me revendique plutôt du Moyen-Âge, ben, de ce côté-là.
Sylvie Copé, en mathématiques, on peut utiliser la pédagogie du chef-d'œuvre ?
Ah oui, tout à fait. Nous avons aussi des chefs-d'œuvre en mathématiques. Moi je voulais revenir sur un autre point. Alors, je vais partir d'une phrase que j'ai trouvée à la fin du chapitre 3, où vous dites « Bref, nous avons organisé la pédagogie quand nous aurions dû pédagogiser l'organisation. Nous avons trop fait à côté quand il fallait faire au cœur. Nous n'avons pas suffisamment compris qu'on ne pouvait travailler pour les élèves qu'avec les professeurs. » Donc, j'ai trouvé cette phrase intéressante. Donc, j'ai bien compris votre démarche dans le livre. Vous avez un peu dit ce que vous avez envie de dire à ces nouveaux professeurs. Vous avez mis en avant... un certain nombre de choses qui vous tiennent à cœur, donc ne pas séparer les savoirs et le suivi. Vous parlez de l'autorité. Moi, il me semble qu'il y a un absent dans ce livre-là. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est la question de l'évaluation. Est-ce que ces jeunes professeurs-là qui débutent dans le métier, il ne serait pas bon de leur dire aussi que peut-être il faudrait changer notre conception de l'évaluation ? C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même une conception très forte en France dans laquelle on évalue les enfants ou les ados ou les jeunes avec une norme qui est l'entrée à Polytechnique ou à la rue d'Ulm et qu'on ne les évalue pas assez de façon positive ou bien avec d'autres normes. Voilà, donc je voulais avoir votre opinion là-dessus.
Oui, complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Un de vos collègues, la mathématicien, obtient aujourd'hui un gros succès, André Antibi, avec son livre sur la constante macabre, où il montre que, globalement, les enseignants, mais à leur insu et pas par mauvaise volonté, reproduisent un schéma qui est « il faut toujours qu'il y ait des mauvaises notes pour que les autres aient le sentiment d'être des bons, ceux qui ont une bonne note ». D'ailleurs, les parents nous confirment dans ce choix, puisque quand un enfant rentre à la maison en disant « j'ai eu 16 en maths », la deuxième question, après lui avoir demandé quelle était sa note, c'est « et les autres, ils ont combien ?» Et si on répond ils ont tous 16, ça gêne un peu les parents. Ils préféreraient que leurs enfants aient de bonnes notes, mais que les autres en aient de moins bonnes. Et cette idée que met en valeur André Antibi, c'est qu'au fond, on a ce qu'on appelle la courbe de Gauss, hein, c'est-à-dire la représentation mentale que dans toute classe, il doit y avoir un tiers d'élite, un tiers de moyen, un tiers de débile, quoi. Et si on n'a pas ça, on n'est pas un bon prof. Alors, moi, je crois qu'effectivement, il y a un vrai problème de ce côté-là. L'évaluation est trop normalisée, trop négative, elle ne fait pas suffisamment ressortir les aspects positifs et surtout, elle n'est pas suffisamment vécue comme, moi je dirais, un défi que l'on met à l'élève de progresser par rapport à lui-même. C'est-à-dire que c'est une évaluation essentiellement par rapport aux autres, alors que ça devrait être une évaluation par rapport à soi. Moi, qui ai été un vieux compagnon de route de ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle, on utilisait les ceintures de judo. Sur un tatami de judo, le fait d'être ceinture verte, c'est pas humiliant. C'est pas humiliant parce que c'est une étape pour aller au-dessus. Et les autres vous respectent tel que vous êtes et vous aident à monter. Bien, je pense qu'il faudrait que dans une classe, les évaluations soient ainsi, des étapes qui sont des défis à partir desquels on peut chacun progresser et avancer. Mais ça voudrait dire qu'effectivement, on remet un peu en question, au-delà de l'évaluation, Sylvie, la question des choix d'orientation, la question des moyennes et toute une série de questions qui me semblent aujourd'hui un peu contraignantes pour le jeune enseignant.
Alors, eh ben, on va enchaîner sur cette position. Vous dites à un moment donc, que vous parlez du poids de l'institution sur les enseignants. Ma question tournerait autour du politique. Si le politique avait des affirmations à faire sur l'enseignement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles seraient vos affirmations autour de ça?
Non, ce que je crois, c'est que l'éducation est l'affaire de la nation et l'école est l'affaire de la nation. Et que la nation a à dire aux enseignants ce qu'est leur métier, quelles sont ses ambitions. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que précisément, ces ambitions ne sont pas claires. Ce sont plutôt même des ambitions à la baisse. Alors, quand on a des difficultés, et aujourd'hui, il y a des difficultés, c'est difficile d'être prof dans un certain nombre de lieux, vous le savez, vos stagiaires nous le disent. C'est difficile parce qu'il y a des gamins qui ne sont pas bien dans leur basket à l'école. C'est difficile parce qu'il y a des problèmes autour de l'école. C'est difficile. Alors, quand on a des difficultés, on a une solution. Hein. C'est de supprimer les difficultés en supprimant les ambitions. Voilà. On dit tous les enfants ne peuvent pas arriver en troisième. Donc, au lieu de chercher comment les faire arriver en troisième, on les dit ben, écartons-les dès la fin de cinquième. Alors ça, c'est toujours facile de supprimer ces difficultés en supprimant et en rabattant ces ambitions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'attends du politique qu'il nous réaffirme et qu'il nous dise quelles sont les ambitions de la France pour ces jeunes. Et contrairement à une idée trop répandue, je ne crois pas que l'école soit malade de trop de démocratisation, mais de pas assez de démocratisation, encore. Il nous manque de la démocratisation des savoirs scientifiques en particulier. On parle beaucoup de l'illettrisme, mais il y a une forme d'illettrisme scientifique chez nos concitoyens, et je pense qu'il faut la pointer. Nous manquons de savoir, et il ne faut absolument pas rester dans cette espèce de pensée qui, aujourd'hui, qui dirait « oui, il y a trop de gens qui vont à l'école, ils n'ont pas de débouchés ». Non, il n'y a jamais assez de gens qui apprennent, qui acquièrent des savoirs et qui réussissent à s'approprier une culture.
Merci Philippe Mérieux, nous reprenons dans quelques instants.